Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Menachot, page 71, Daf Ayin Aleph. Bonne écoute et bon limoud.
Le Rabbi Hoshia de Daré à Rabbi Hoshia qui était de sa génération, parce qu'il y en avait un autre qui était beaucoup plus âgé et qui était en fait un Tana, l'interlocuteur de Rabbi Yonatan. L'antitive Akarech, ne t'assois pas sur tes pieds, car à l'époque il s'asseyait par terre, Adme Farchatle le Hamatnitin, jusqu'à ce que tu m'expliques la Mishnah suivante. Il s'agit de notre Mishnah, qui dit que ce qui a pris racine avant le Homer est permis par l'offrande de l'Homer. Minain le Homer Shemartir Behashracha, d'où sait-on que l'offrande publique du deuxième jour de Pessah permet ce qui a pris racine, et donc ce qui pousse par la suite, sera permis sans devoir attendre l'offrande de l'année suivante. Menalan, d'où le sait-on? Il répond, dirtiv, car le pasouk dit dans Vaikra Bet, concernant l'offrande de l'Homer, aviv, une récolte printanière. Donc c'est cela qui doit être utilisé pour l'offrande de l'Homer. Lav miklal deika de lav aviv, n'est-ce pas donc que nous pouvons déduire du pasouk qu'il existe autre chose qui n'est pas une récolte printanière, c'est-à-dire qui n'a pas encore atteint le stade de pouvoir être récolté et n'a pas encore entièrement poussé, et quand même, théoriquement, aurait pu être offert. Autrement dit, il sera inclus dans l'offrande du Homer et sera permis par cette offrande. Apparemment donc, même ce qui n'a pas encore atteint ce stade et qui a déjà pris racine sera inclus dans l'offrande de l'Homer. Alors la Gemara demande, nous lisons selon Rashi, Vedilma de lav aviv, peut-être qu'il est vrai qu'il existe quelque chose qui n'a pas encore atteint le stade de récolte printanière et qui est inclus dans l'offrande de l'Homer ou le Olam d'Aïl Shlish, mais toujours pourrais-je te dire qu'il s'agit de quelque chose qui a atteint le stade du tiers de sa croissance, et seulement à ce stade, il sera permis par l'offrande de l'Homer. Mais ce qui est plus petit ne sera pas inclus dans cette offrande. Et là, Amar Shmuel, plutôt dit Shmuel, le pasouk dit dans Dvarim Tetzain, toujours concernant l'offrande de l'Homer, Mehachel Chermesh, à partir du début de la faucille, autrement dit, à partir du début de la moisson, autrement dit, ne pourra être offert pour cette offrande que ce qui a atteint le stade de pouvoir être moissonné. Lav miklal deika de lav bar chermesh, n'est-ce pas donc que nous pouvons déduire de là qu'il existe autre chose qui n'a pas atteint le stade de pouvoir être moissonné, mais qui quand même pourrait être offert, autrement dit, pourrait être inclus dans cette offrande. Puisque ce qui a atteint le stade du tiers de la croissance peut déjà être moissonné, nous apprenons de là que pourra être inclus dans cette offrande même ce qui n'a pas encore atteint le stade du tiers de la croissance, apparemment, à partir du stade de la prise de racine. La Gemara demande, nous lisons selon Rashi, Bedilma de lav bar chermesh, peut-être qu'il est vrai que le pasouk inclut dans cette offrande ce qui ne peut pas être encore moissonné, ou le olam shachat, mais toujours pourrais-je te dire qu'il doit avoir au moins atteint le stade de fourrage qui peut être coupé pour nourrir les animaux, mais s'il n'a pas encore atteint ce stade, il ne sera pas inclus dans cette offrande. Amar Rabbi Yitzhak, Kama, le pasouk emploie le terme de Kama, ce qui est sur pied. En effet, le pasouk dit, à partir du début de la moisson de ce qui est sur pied. Alors le terme qui est sur pied inclut aussi ce qui peut servir de fourrage au stade d'herbe, et c'est cela qui pourra être utilisé pour l'offrande de l'Homer. Lav miklal de lav bar kama, n'est-ce pas que nous pouvons déduire de là qu'il existe autre chose qui n'a pas encore atteint le stade d'être sur pied et qui pourrait être offert pour l'Homer, autrement dit, sera inclus dans cette offrande. Ce qui inclut aussi ce qui a pris racine avant l'offrande de l'Homer. La Gemara demande, nous lisons selon le Bar, Bedilma de lav bar kama, peut-être qu'il est vrai que le pasouk inclut aussi ce qui n'est pas encore sur pied, donc il n'a pas encore atteint le stade de fourrage, ou le olam agam. Mais toujours pourrais-je te dire que pour être inclus dans l'offrande de l'Homer, il doit au moins avoir atteint le stade de jeune pousse qu'on peut replier sur elle-même. Mais d'où sait-on qu'à partir de la prise de racine, le semis est inclus dans l'offrande de l'Homer? L'agma répond, et là plutôt à Marava, le pasouk dit dans Shemot Kaf Gimel, concernant la fête de Shavuot, pendant laquelle sont offerts les deux pains spéciaux qui permettent d'utiliser la nouvelle récolte pour les offrandes dans le Beth Amikdash. En fait, les deux offrandes sont liées, car l'offrande des deux pains de Shavuot permet d'utiliser la nouvelle récolte pour les offrandes, mais qui a été permise à la consommation du particulier dès l'offrande publique du deuxième jour de Pessah. Donc, ce qui est inclus dans l'offrande des deux pains est forcément inclus dans l'offrande de l'Omer pour le particulier. Alors, le Passouk dit, et la fête de la moisson, où on offre les prémices de tes actions à Cher Tizra que tu as semé. Nous apprenons de là, Misha Adzria, que l'offrande de Shavuot est donc celle publique du deuxième jour de Pessah, permet ce qui a été semé auparavant. Amar le Rav Papa le Rava, Rav Papa a posé la question suivante à Rava, Yachi, si c'est ainsi, Afalgav de Loish Rishnami. Même si le semis n'a pas encore pris racine, mais a été semé avant l'Omer, devrait être permis par l'offrande de l'Omer. Amar le, Rava lui a répondu, Soudni, qui veut dire celui qui possède les grands secrets et qui fait allusion à un érudit, car le Passouk dit dans Tehilim Café, qu'Hachem dévoile ses secrets à ceux qui le craignent. Donc il lui dit, érudit, le Passouk poursuit en disant, Bassadektiv. Le Passouk s'exprime en disant, Bassadé, que tu auras semé dans le champ. Donc pour que la graine soit considérée comme étant dans le champ, forcément, il faudra qu'elle ait pris racine. Donc, dès que la graine a pris racine, elle sera inclue dans l'offrande de l'Omer si la prise de racine a eu lieu auparavant. Nouvelle Mishnah. Kotsrin bet hashlachim sheba amakim. Il est permis de moissonner les champs qui nécessitent un arrosage constant et qui se trouvent dans les vallées, et ce, avant la moisson de l'orge nécessaire pour l'offrande de l'Omer, car étant donné qu'il se trouve dans la vallée, la production s'abîme très vite, on ne peut donc pas attendre, et en plus, l'orge ou les produits qui poussent dans ces champs n'est pas de très bonne qualité et ne peut pas être utilisé pour l'offrande de l'Omer. Aval logochim, mais il est interdit d'entasser la récolte. Anshei Yericho, les habitants de Yericho, Kotsrim, Birtson Chachamim, ils moissonnaient leur récolte avant l'Omer avec l'approbation des Chachamim, car ils habitent dans la vallée. Begodshim, Shelo Birtson Chachamim, cependant, ils entassaient leur récolte, et ce, contre la volonté des Chachamim. Velomichu Biadam, cependant, ils n'ont pas protesté pour les empêcher de le faire. Kotser, les Shachat, ou Machil, la Behema, il est permis de moissonner la nouvelle récolte avant le Homer pour en faire du fourrage et nourrir les animaux. Amar Rabbi Yehuda et Matai, quand est-ce qu'on dit cela? Bizman Shematril Ad Shelo Hebishlish. C'est uniquement s'il a commencé cette moisson de fourrage avant que la production n'ait atteint le tiers de sa croissance. Il peut alors continuer à moissonner du fourrage même après que la production a atteint le tiers de sa croissance. Rabbi Shimon Omer, Yiktzor v'yachil af mishei v'ishelish, il peut même commencer à moissonner du fourrage et à nourrir ses animaux après que la production a atteint le tiers de sa croissance. Bekotzrin mipne netiot, il est permis de moissonner un champ dans lequel se trouvent des jeunes arbustes qui risquent de s'abîmer si on laisse la production trop longtemps, car ce qui pousse dans ce champ est de mauvaise qualité et ne peut pas être utilisé pour l'offrande de l'Omer. Mipne beta avel, et aussi, si on a besoin d'un emplacement pour installer des endeuillés, mipne bitul beta midrash, ou bien s'il y a un risque d'arrêt de l'étude dans le beta midrash, c'est-à-dire s'il n'y a plus de place dans le beta midrash, il est permis de moissonner un champ pour y installer les élèves, car dans ces cas, il s'agit d'une moisson pour une mitzvah qui n'est pas interdite avant la moisson du nécessaire pour l'offrande de l'Omer. Cependant, lo yaase otam krichot, il sera interdit de les attacher en gerbe, aval manichin tzvatim, mais il les laisse par petits tas dans le champ. Mitzvat ha-Omer lavo min hakama, la meilleure manière d'accomplir la mitzvah d'offrir l'offrande publique du deuxième jour de Pessah est qu'elle provienne d'orge sur pied, donc qu'on moissonne spécialement pour l'accomplissement de cette mitzvah. L'omatsa, s'il n'a pas trouvé d'orge sur pied, yavi min ha-omarim, il peut même amener des gerbes, c'est-à-dire de l'orge déjà moissonnée. Mitzvato lavo min halach, la meilleure manière d'accomplir cette mitzvah, c'est que cette offrande provienne d'orge frais, qui n'est pas encore séché, l'omatsa, mais s'il n'a pas trouvé d'orge frais, yavi yavesh, il peut même amener de l'orge qui a déjà entièrement séché. Mitzvato liktsor balayla, la meilleure manière d'accomplir cette mitzvah, c'est de moissonner spécialement pour cette offrande pendant la nuit qui suit le premier jour de Yom Tov de Pessah, niktsar bayom, mais si l'orge pour cette offrande a été moissonné pendant la journée même du 16 Nissan, kasher, l'offrande est valable. Ve docha et shabbat, cette offrande repousse le shabbat si le 16 Nissan tombe un shabbat. Nous avons vu donc dans la Mishnah qu'il est permis de moissonner avant le Homer les champs qui nécessitent un arrosage constant et qui se trouvent dans les vallées. La Gemara dit là-dessus, Tania, il est enseigné dans une braïta, Rabbi Binyamin Omer, Katuv Echad Omer, un pasuk dit dans Vaikra Kav Gimel, Uktsartem et Ketzira, Vavetem et Omer. Lorsque vous arrivez en Eretz Israël et vous moissonnerez sa moisson, vous amènerez une mesure d'un Omer d'orge pour une offrande. Apparemment, il est permis de commencer à moissonner avant l'offrande de l'Omer. Uktiv, il est écrit toujours dans le même passage, Reshit ketzirchem el Kohen, le début de votre moisson au Kohen. Donc il faut amener le début de la moisson. Apparemment, il est interdit de moissonner avant le Homer. Haketzad, comment accomplit-on ces deux psukim? Rabbi Binyamin répond, Bimakom she'ata mevi, d'un endroit, donc d'un champ duquel tu peux amener cette offrande. Yata kotzer, tu n'as pas le droit de moissonner avant l'offrande de l'Homer. Bimakom she'ata mevi, mais d'un endroit duquel tu ne peux pas emmener une production pour cette offrande, car il s'agit d'une production de mauvaise qualité, comme celle qui pousse dans les champs qui nécessitent un arrosage constant et qui se trouve dans les vallées, à ta kotzer, tu as le droit de moissonner même auparavant. La Gemara demande, Emma, peut-être que c'est ainsi qu'il faut résoudre cette contradiction, mimin she'ata mevi, de la sorte de céréales de laquelle tu peux emmener l'offrande. Yata kotzer, tu n'as pas le droit de moissonner, donc il est interdit de moissonner de l'orge avant l'offrande. Mimin shiata mevi, mais de la sorte de céréales de laquelle tu ne peux pas emmener cette offrande, donc les autres types de céréales, yata kotzer, tu as le droit de moissonner, ce qui élargirait la permission de moissonner avant le homer. L'agma répond, hahu lo matzit amart, cette solution, tu ne peux pas la dire, mid Rabbi Yochanan, à cause de l'enseignement présenté par Rabbi Yochanan dans le daf précédent. En effet, Rabbi Yochanan prouve d'une Xera Shava dans le support le terme de Reshit, employé à la fois concernant l'offrande de l'Omer et concernant l'obligation de prélever la Chala, que l'interdiction de moissonner la nouvelle récolte avant le Omer concerne toutes les cinq sortes de céréales. Forcément donc, si nous devons résoudre cette contradiction, c'est de la manière proposée par Rabbi Binyamin, c'est de permettre donc de moissonner les champs dont la production est de mauvaise qualité. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Anshei Yericho Kotzrin Birtson Chachamim » Les habitants de Yericho moissonnaient leurs champs avec l'approbation des Chachamim « Ve'godshim Shelo Birtson Chachamim » mais entassaient leur production contre la volonté des Chachamim. Cependant, les Chachamim n'ont pas protesté pour les empêcher d'agir ainsi. La Gemara demande, Man shematle de Amar Michu Velo Michu, qui as-tu entendu dire qu'en ce qui concerne les différentes actions des habitants de Yericho, les Chachamim ont protesté sur certaines de ces actions et n'ont pas protesté sur d'autres de ces actions? Rabbi Houda, c'est l'opinion de Rabbi Houda, comme nous le verrons par la suite. La question se pose, Vesava Rabbi Houda Ktsira de Anche Yericho Birtson Chachamim Abay, est-il possible de dire que Rabbi Houda pense que la moisson qu'ont effectué les habitants de Yericho a été effectué avec l'approbation des Chachamim, de Atania, pourtant, il est enseigné dans une braïta, Shisha Dvarim Asu Anche Yericho, il y a six choses qu'ont fait ou qu'avaient l'habitude de faire les habitants de Yericho. Shlosha Birtson Chachamim, trois de ces actions ont été effectuées avec l'approbation des Chachamim, ou Shlosha Shelo Birtson Chachamim, tandis que trois des autres ont été effectuées contre la volonté des Chachamim. Ve'elu shebirtson chachamim, voici les actions qu'ils ont effectuées avec l'approbation des chachamim. Premièrement, markivin dekalim kolayom, bien qu'il était interdit de travailler la veille de Pessah, à Yericho, ils avaient l'habitude de greffer des palmiers toute la journée. En fait, il s'agissait d'une injection d'un produit dans les cœurs de palmier pour les renforcer. Il considérait que ce n'était pas un travail conséquent. Il était donc permis de le faire toute la journée de la veille de Pessah. Bekorchin et Shema. Et il lisait le Shema d'un trait sans marquer les arrêts là où il faut le faire. Comme la Gemara l'explique longuement dans Masechet Psachim Daf Nunvav Amud Alef. Bekotzrin lifnei haomer. Et ils moissonnaient leurs champs avant la moisson de l'orge nécessaire pour l'offrande de l'Omer, Birtson Chachamim, avec l'approbation des Chachamim. Ve'elu shelo Birtson Chachamim, et voici les actions qu'ils ont effectuées contre la volonté des Chachamim. Godshim lifnei haomer, ils entassaient leur récolte avant la moisson du nécessaire pour l'offrande de l'Omer, ou matirin gamziot shel hekdesh shel charuv ve'shel shikma, et ils permettaient à l'utilisation des particuliers les pousses d'arbres de caroub ou de sycamore qui avaient été sanctifiés par leurs ancêtres. Ces arbres, en fait, sont plantés essentiellement pour produire des poutres. Ils disaient que leurs ancêtres n'avaient eu l'intention que de sanctifier les poutres et non pas ce qui pousserait par la suite. Ils les permettaient donc à l'utilisation. Ou portzin pratzot beginotehem ou bepardesotehem, et ils ouvraient des brèches dans leurs jardins et dans leurs vergers. Les ha'achil nesher le'aniim, pour nourrir les pauvres avec les fruits qui sont tombés des arbres, bishne batzoret, et ce pendant les années de disette, bishabatot ou beyamim tovim, pendant le shabbat et le yom tov. Autrement dit, ils permettaient aux pauvres de se servir des fruits qui étaient tombés de leurs arbres pendant le shabbat. Alors qu'en général, les chachamim interdisent d'utiliser pendant le shabbat des fruits qui sont tombés des arbres pendant le shabbat, de peur qu'on en cueille. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Amar le Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda lui a demandé, im birtson chachamim hen osim, s'ils agissaient ainsi avec l'accord des chachamim, en ce qui concerne les trois premières actions énumérées dans la Braïta, yehu kol adam osim ken, que n'importe qui puisse agir ainsi. Pourquoi seuls les habitants de Yericho avaient eu le droit de le faire? Et là, plutôt, dit Rabbi Yehuda, elu va elu shelo birtson chachamim, soit celle-ci, c'est-à-dire toutes les six actions qu'il faisait, il le faisait contre la volonté des Chachamim. Cependant, Ve'al Shlosha Mechoubi Adam, sur trois de ces types d'actions, les Chachamim ont protesté pour les empêcher de le faire. Ve'al Shlosha Lomichoubi Adam, et sur trois autres, ils n'ont pas protesté pour les empêcher de le faire. Ve'elu Shlomichoubi Adam, et voici les trois types d'actions pour lesquelles les Chachamim n'ont pas protesté. Markivin Dekalim Kolayom, il se permettait de greffer des palmiers toute la journée de la veille de Pessah, alors que les Chachamim ont interdit de travailler pendant Pessah, Bekorchin et Shema, et il lisait tout le Shema sans s'arrêter, même aux endroits où il fallait le faire, Bekotzrim, Begodshim, Lifnei Omer, et ils moissonnaient et entassaient leurs produits avant la moisson de l'orge destinée à l'offrande de l'Omer. Bien que donc il soit interdit de le faire, les Chachamim n'ont pas protesté contre cela. Ve'elu shemichu biadam, et voici les actions pour lesquelles les Chachamim ont protesté.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Tournons la page à Daf Ayin Alef Amud Bet. Matirin gamziot shel ekdesh shel charuv ve'shel shikma. Il permettait à l'utilisation du particulier ceux qui avaient poussé sur les arbres de caroub ou de sycamore qui avaient été sanctifiés par leurs ancêtres. Il prétendait que leurs ancêtres n'avaient sanctifié que les poutres d'origine et non pas ceux qui avaient poussé par la suite. Ou portin pratzot beginotehem ou bepardesotehem. Ils ouvraient des brèches dans leurs jardins et dans leurs vergers. Kedeleachil nesher leanim bishne batzoret, pour nourrir les pauvres avec les fruits qui sont tombés pendant les années de disette, et ce, Beshabbatot ou Beyamim Tovim, pendant le Shabbat et le Yom Tov, il leur permettait donc de se servir de ces fruits qui étaient tombés pendant le Shabbat, alors que les Chachamim l'interdisent. Venotnin Pea Layerek, et ils étaient généreux en ce sens qu'ils laissaient le coin du champ de légumes pour les pauvres, comme il faut le faire pour les champs de céréales. Cependant, selon les Chachamim, cette obligation n'existe que pour les champs de céréales et d'autres produits qui se gardent longtemps et non pas pour les légumes qui ne se gardent pas longtemps. Le problème, c'est lorsqu'ils laissent une partie du champ pour les pauvres. Ils avaient l'intention d'exempter cette partie qu'ils ont laissée aux pauvres du prélèvement de la dîme, alors que celle-ci est obligatoire, puisque le prélèvement de PA n'est pas obligatoire. Voir le Tosfot. Où Michou, Béadam et les Chachamim ont protesté pour les empêcher de le faire. En tout cas, nous voyons, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, que non seulement le fait d'entasser la production était interdit avant l'offrande de l'Omer, mais aussi la moisson. Or, dans notre Mishnah, nous voyons que dans les champs de la vallée comme à Yericho, il est permis de moissonner avant l'Omer. La Gemara demande, Vili Tamer, et selon toi qui pose cette question, Shisha, il n'y avait que 6 actions que les habitants de Yericho faisaient, Shiva Avu. Il y en a en fait 7, puisque dans la première partie où les Chachamim n'ont pas protesté, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, il y a en fait 4 actions. Le fait de moissonner avant l'Omer, le fait d'entasser la production, le fait de greffer les palmiers toute la journée de la veille de Pessah, et le fait de lire tout le chemin sans s'arrêter. Et là, plutôt forcément, Same Mikan Ktira, il faut effacer le terme de Ktira, moisson, dans le passage de Rabbi Yehuda, car en fait, comme nous le voyons dans la Mishnah, il est permis de le faire avant la moisson de l'orge nécessaire pour l'Omer, étant donné qu'il s'agit de champs de mauvaise qualité, comme nous l'avons expliqué. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Kotser le shachat umachil la behema ». Il est permis de moissonner le blé au stade de fourrage et de nourrir des animaux. Nous avons vu à ce sujet une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Selon Rabbi Shimon, il est permis de moissonner du fourrage même si la production en question a dépassé le stade du tiers de sa croissance, tandis que selon Rabbi Yehuda, il n'est permis de le faire que si on commence cette moisson avant que la production ait atteint le tiers de sa croissance. Alors la Gemara dit, Nanatam, il est enseigné là-bas dans Masechet Pea Perek Bet Mishnah Aleph concernant les lois de Pea. Il y a en effet un commandement de laisser le coin du champ pour les pauvres lorsqu'on termine la moisson. Midrabanan, il faut laisser 1/60 de la production. Alors la question traitée dans cette Mishnah est à savoir comment déterminer le fait qu'il s'agit d'un seul champ ou bien s'il s'agit de 2 champs, il faut donc laisser 2 coins, donc un au bout de chacun de ces champs. Alors la Mishnah dit, « Ve'elu mafsikin le pea », voici ceux qui coupent un champ en 2, de manière à déterminer qu'il s'agit de 2 champs. « Hanachal, un ruisseau, ve'hashlulit, et une grande flaque d'eau, ou un espèce d'étang, ve'derech hayachid, et un chemin privé, qui a une largeur de 4 amot, soit environ 2,40 m, Vederech Harabim est un chemin public qui a une largeur de 16 amas, soit environ 9,5 m, ou Shvil Harabim est un sentier public, ou Shvil Hayachid est un sentier privé, Hakavua Bimot Hachama ou Bimot Hagshamim, qui sont fixes soit en été après la moisson, soit même en hiver après les semailles. Puisque ce sentier ne disparaît pas pendant les semailles, il coupe le champ en 2. Vehabour, et une partie du champ qui a été laissé en friche, si cette bande traverse le champ de part en part, Vehanir, ou bien si une partie a été laissée labourée sans être semée, Vezeraacher, ou bien s'il y a une bande tout au long du champ dans laquelle on a semé autre chose, Vekotser leshachat, ou bien même si tout le champ a été semé avec la même chose, mais il a moissonné une bande pour fourrage, Mafsik, le fait d'avoir moissonné cette partie, coupe le champ en 2. D'ivrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir, car il considère que le fait de moissonner pour du fourrage ne peut pas être considéré comme étant un début de moisson, puisque ce n'est pas la manière normale de moissonner. C'est pourquoi, selon lui, le fait de moissonner pour du fourrage partage un champ en 2. Et pour les 2 parties restantes, il faudra laisser le coin du champ pour les pauvres séparément. Tandis que le Chachamim disent En mafsik elaim kem charash, le fait d'avoir moissonné pour du fourrage ne partage pas un champ en 2, à moins qu'il ait labouré cette partie. Cette action supplémentaire partagera le champ. Mais le fait d'avoir moissonné simplement pour du fourrage, peut être considéré comme étant un début de moisson. Donc, à la fin de la moisson de tout le champ, il laissera un coin pour les pauvres. Nous noterons qu'il est évident que lorsque les Chachamim considèrent le fait de moissonner pour du fourrage comme étant un début de moisson, cela ne veut pas dire qu'en ce qui concerne les lois de la nouvelle récolte, il sera interdit de moissonner pour du fourrage. Car nous voyons notamment qu'en ce qui concerne la nouvelle récolte, il est uniquement interdit de moissonner normalement, mais par exemple, arracher les épis avec la main, c'est permis. Tandis qu'en ce qui concerne les lois de PA, lorsqu'il moissonne avec les mains, il est évident que cela sera considéré comme étant moissonné. Il devra laisser un coin du champ pour les pauvres. Cependant, lorsque Rabbi Meir dit que moissonner pour du fourrage n'est pas considéré comme étant un début de moisson, il y a lieu de faire la comparaison avec les lois de la nouvelle récolte, car ce qui n'est pas considéré comme étant une moisson pour les lois de PA ne le sera pas non plus pour les lois de l'interdiction de moissonner la nouvelle récolte. C'est pourquoi la Gemara dit « Amar Rabba Bar Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Meir Beshitat Rabbi Shimon Amra, Rabbi Meir a dit son enseignement en suivant l'opinion de Rabbi Shimon dans notre Mishnah de Amar qui dit « Yiktzor Veyachil Af Meshevi Ashlish, il peut moissonner pour du fourrage et il est permis aussi de nourrir les animaux même lorsque la nouvelle récolte a atteint le stade du tiers de sa croissance. Alma, donc, nous pouvons déduire de là, qu'à savoir, Rabbi Shimon pense, kol leshachat, toute moisson pour du fourrage, lav tzirahi, n'est pas considérée comme étant une moisson. C'est pourquoi aussi, en ce qui concerne les lois de PA, il considère le fait de moissonner pour du fourrage comme n'étant pas un début de moisson, il a donc coupé son champ en deux, en moissonnant une bande pour du fourrage. Yativ Rabba Vekamar La Lehashmata. Rabba était assis et répétait cet enseignement. Etive Rav Acha Bar Huna Le Rava. Rav Acha, fils de Ravuna, a posé la question suivante à Rava. Pourtant, il est enseigné dans une braïta. Achla Chagav. Si des sauterelles ont mangé une partie de la récolte, Kirsemuha Nemalim, ou bien si des fourmis ont rongé les épis, Shebartahu Aguar, ou bien le vent a brisé des épis, Hakol Modim, tout le monde sera d'accord que Harash, s'il a moissonné cette partie du champ qui a été dévastée de cette manière, Mafsik, cela forme un arrêt, et donc il a coupé son champ en deux, il devra laisser deux fois un coin du champ pour les pauvres, Lo Harash, mais s'il n'a pas moissonné cette partie du champ, et non Mafsik, cette partie ainsi dévastée ne coupe pas son champ en deux. Il pourra donc se contenter de laisser un seul coin pour les pauvres. Alors la question se pose, Hakol Modim Man, lorsque la Braïta dit tout le monde est d'accord, à qui veut-elle faire allusion lorsqu'elle parle de tout le monde? Forcément, c'est Rabbi Meir. Iamart Bishlama, on comprend bien cela si nous disons que Matnitin Besheloi Viashlish, la Mishnah où Rabbi Meir dit que le fait de moissonner pour du fourrage coupe son champ en deux, Besheloi Viashlish, il s'agit d'une situation où la récolte n'a pas atteint le tiers de sa croissance. Braïta, tandis que la Braïta qui dit que lorsque le champ a été dévasté par des sauterelles ou des fourmis, des harash in, que seul s'il a labouré cette partie, oui, il a coupé son champ en deux, lo harash, mais s'il n'a pas labouré cette partie dévastée, lo, non, le champ n'est pas partagé en deux. Bechehe vishlish, il s'agit d'une situation où cette récolte avait atteint déjà le tiers de sa croissance. Par conséquent, en toutes circonstances, nous considérons, même lorsque le champ a été dévasté par des sauterelles ou des fourmis, qu'il s'agit d'un début de récolte, et donc le champ n'est pas partagé en deux s'il n'a pas labouré la partie dévastée. Tandis que lorsque la moisson n'a pas atteint le tiers de sa croissance, le fait d'avoir moissonné pour du fourrage n'est pas considéré comme étant un début de moisson, et par conséquent, il a partagé son champ en deux. Et la Iamart Matniti Nami Beshe Vishlish, mais si tu dis que la Mishnah où Rabbi Meir dit son enseignement parle aussi d'une situation où la récolte avait atteint le tiers de sa croissance, et quand même le fait de moissonner pour du fourrage n'est pas considéré comme étant un début de moisson, et donc il a partagé son sang en deux. Alors la question se pose, Hashta si déjà ou Maatam, si déjà là-bas, Dektira, où il a moissonné normalement, cependant, il a une intention pour l'utiliser pour du fourrage. Amar Rabbi Meir lo shemar k'tira. Rabbi Meir dit quand même que ce n'est pas considéré comme étant un début de moisson. Il a partagé son champ en deux. Haha, ici, lorsque le champ ou une partie du champ a été dévastée par des sauterelles ou des fourmis, le kol sheken, n'est-il pas évident qu'on ne pourra pas considérer cela comme étant un début de moisson et forcément nous devrions considérer que son champ a été partagé en deux? Comment se fait-il donc que la Braïta a dit que même Rabbi Meir est d'accord là-dessus, que s'il n'a pas labouré la partie dévastée, il n'a pas partagé son champ en deux? Alors la Gemara répond, et là, plutôt, Rabbi Meir Beshita de Rabbi Yehuda Amra. Rabbi Meir a dit son enseignement suivant l'opinion de Rabbi Yehuda de Amar qui dit, Emata bizman shehitril ad shelo evishlish. Quand est-ce qu'on dit cela, qu'il est permis de moissonner pour du fourrage avant l'offrande de l'Omer? C'est uniquement s'il a commencé à moissonner avant que la récolte n'ait atteint le tiers de sa croissance. Aval imhitril achevishlish, mais s'il commence alors que la récolte a atteint le tiers de sa croissance, assour, il est interdit de le faire. Donc, Rabbi Yehuda considère que le fait de moissonner pour du fourrage avant que la récolte n'ait atteint le tiers de sa croissance n'est pas considéré comme étant un début de récolte. Et en ce qui concerne les lois de PA aussi, lorsqu'il moissonne pour du fourrage avant que la récolte n'ait atteint le tiers de sa croissance, ce n'est pas considéré comme étant un début de moisson et il a donc partagé son champ en deux. Alors la Gemara demande, Emar deshmatle le Rabbi Yehuda, il est vrai que tu as entendu l'opinion de Rabbi Yehuda que le fait de moissonner avant que la récolte n'ait atteint le tiers de sa croissance, les BMA, c'est uniquement s'il a moissonné pour nourrir des animaux, comme c'est enseigné clairement dans la Mishnah, les Adam Mishmatle, mais s'il a eu l'intention de nourrir un homme ou des hommes, as-tu entendu qu'il pense que ce n'est pas considéré comme étant une récolte? Deimken, car si tu dis que oui, que Rabbi Yehuda pense que le fait de moissonner pour un homme aussi n'est pas considéré comme étant un début de moisson lorsque la récolte n'a pas atteint le tiers de sa croissance, havulehut la tatanae, il se trouve que dans notre Mishnah, il y a trois auteurs. Car le premier auteur de la Mishnah dit clairement qu'il est permis de moissonner du fourrage uniquement pour nourrir des animaux. Et Rabbi Yehuda précise quand est-ce qu'on dit cela uniquement s'il a moissonné alors que la récolte n'a pas atteint le tiers de sa croissance. Et nous voudrions dire qu'il voudrait dire qu'à ce stade il serait permis même de moissonner pour un homme. Et Rabbi Shimon permet de moissonner du fourrage même après que la récolte a atteint le tiers de sa croissance. Et ce, aussi, même pour un homme. Puisque, selon ce que nous voulons dire, de même que Rabbi Yehuda n'a rien précisé en ce qui concerne la destination de ce fourrage, il voudrait dire même pour l'homme, il en est de même pour Rabbi Shimon. Or, nous savons, comme l'Agmara dit dans Maseret Sanhedrin Daf Kafé, que lorsque Rabbi Yehuda s'exprime en disant quand est-ce que nous avons dit telle et telle chose, ce n'est pas pour discuter avec l'auteur précédent, mais pour l'expliquer. Forcément, Rabbi Yehuda doit penser comme le Tanakama, qu'il n'est permis de moissonner du fourrage, alors que la récolte n'a pas atteint le tiers de sa croissance, uniquement pour l'animal. Tandis que Rabbi Meir, qui dit que celui qui moissonne pour du fourrage n'est pas considéré comme étant un début de récolte et partage son champ en deux, même s'il a moissonné cela pour l'homme, puisqu'il n'y a aucune précision dans la Mishnah à ce sujet. Nous ne pouvons donc pas dire que Rabbi Meir a dit son enseignement selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Et là, plutôt, la Gemara dit qu'Ata Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est venu d'Eretz Israël, Amar, il a dit, Rabbi Meir, Beshitat, Rabbi Akiva, Rabo Amar. Rabbi Meir a dit son enseignement selon l'opinion de Rabbi Akiva, son maître. Nous lisons selon la Shitam Kubetzet d'Amar qui dit « Afle Adam, même pour l'homme, lorsqu'il moissonne alors que la récolte n'a pas atteint le tiers de sa récolte, Namilo avec Tira aussi n'est pas considéré comme étant un début de moisson. D'Etnan, car il est enseigné dans une Mishnah, dans Maseret Pea, Pere Gimel, Mishnah Bet. Hamenamer Sade, celui qui moissonne son champ partiellement par bande, en laissant chaque fois une bande sur pied, de manière à ce que son champ est bariolé comme le tigre, de Shirbo Klachim Lachim, il a laissé sur pied des épis verts qui n'ont pas entièrement mûri, Rabbi Akiva Omer, Pea le Kol Echad Bechad, il devra laisser un coin de chaque bande lorsqu'il les moissonnera, car lorsqu'il a commencé à moissonner son champ de cette manière, il a partagé son champ. Bachachamim Omrim, mais Echad à la colle, il peut se contenter de laisser un seul coin pour tout le champ. Car lorsqu'il a commencé à moissonner de cette manière, nous considérons qu'il a débuté la moisson, et lorsqu'il termine la moisson, il laisse un seul coin pour tout le champ. Vamar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Lochiev Rabbi Akiva. Rabbi Akiva n'a rendu obligatoire le fait de laisser un coin pour chaque bande, et là, Bemenamer le Klayot, c'est uniquement lorsqu'il a moissonné partiellement son champ en laissant des bandes pour utiliser les graines pour en faire des graines grillées. Donc, il a moissonné alors que la récolte n'avait pas encore atteint le tiers de sa croissance. Aval Bemenamer le Otsar, mais s'il a moissonné son champ par bandes pour entreposer la récolte, donc lorsqu'elle était entièrement mûr, l'eau, non. Il n'aura pas besoin de laisser un coin pour chaque bande, il pourra se contenter de laisser un seul coin pour tout le champ. Nous voyons donc, selon cette interprétation de l'opinion de Rabbi Akiva, qu'il pense qu'une personne qui moissonne une partie du champ alors que la récolte n'a pas encore atteint le tiers de sa croissance, même pour l'utilisation de l'homme, ce n'est pas considéré comme étant un début de récolte et il a partagé son champ. L'opinion de Rabbi Meir, que nous avons vue dans la Mishnah précédente, correspond à l'opinion de son maître, donc Rabbi Akiva. La Gemara demande, « Emi, ce n'est pas vrai. Beha ki ata Rabin, pourtant lorsque Rabin est venu d'Eret Israël, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, « Mechayev haya Rabbi Akiva. » Rabbi Akiva rendait obligatoire le fait de laisser un coin pour chaque bande, « Af bemenamer le Otsar, même lorsqu'il a moissonné partiellement son champ par bande, alors qu'il avait l'intention d'entreposer le produit dans un entrepôt, donc même lorsque la récolte était entièrement mûre. Et ce, comme l'explique le Tarat HaKodesh, étant donné que tout le champ n'était pas entièrement mûr, comme nous l'avons vu dans la Mishnah qu'il a laissé des épis verts, c'est pourquoi lorsque le reste de la production mûrira, il s'agira d'une nouvelle récolte, et pour chaque bande, il devra laisser un coin pour les pauvres. Mais en tout cas, selon cet enseignement de Rabbi Yochanan, comment pouvons-nous dire que Rabbi Meir pense comme Rabbi Akiva, alors que Rabbi Akiva pense que même moissonner après que la production a atteint le tiers de sa croissance n'est pas considéré comme étant un début de récolte, et par conséquent, il a partagé son champ.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.